Université du Missouri.
Le choléra est une infection diarrhéique aiguë. Et la raison pour laquelle ça peut être un problème, c'est que les symptômes peuvent se manifester juste quelques heures après une infection, à quelques jours après une infection. Et ça peut causer une sévère déshydratation. Il y a deux éléments qui sont importants, c'est l'hygiène chez les populations et la sanitation publique. 80% des gens qui sont infectés par le choléra n'ont pas de symptômes, mais ils continuent toujours d'avoir la bactérie dans leurs selles. Les 20% de personnes qui ont des symptômes, la plupart du temps, c'est une diarrhée qui dure quelques heures ou une journée ou deux. Donc même dans ces 20%, c'est juste 1 à 5 cas qui auront les symptômes qui seront assez sévères pour nécessiter une hospitalisation et un traitement avec de la réhydratation.
Il y a des vaccins qui sont mis en place?
Il y a deux vaccins pour le choléra. Et en Haïti, justement, en 2012, un des vaccins a été introduit dans la population. Ce n'est pas un vaccin qui est donné à tout le monde, mais dans des situations d'épidémie, c'est un vaccin qui travaille. Et ça a montré vraiment qu'il y a eu une réduction des cas sévères de choléra dans les populations qui ont reçu le vaccin. C'est pris à 2 ou 3 doses dépendant de l'âge et ça diminue l'incidence. Mais ça ne prévient pas nécessairement. Une fois que le choléra est endémique, ça ne prévient pas nécessairement l'épidémie de se réactiver, justement s'il n'y a pas ces conditions d'hygiène qui sont déjà en place.
Quelle est l'attitude à avoir lorsqu'on commence à voir qu'il y a des cas de mort?
La première réponse est de reconnaître que c'est un cas de choléra et de commencer la réhydratation dès que possible.
Qui des deux est le plus exposé, l'enfant ou l'adulte?
La sévérité des cas n'a pas vraiment d'âge, mais un enfant par exemple de 2 ans qui n'a pas contrôle de ses selles, qui a la diarrhée, la maman le change. Et dans ce processus, la maman ne pense pas nécessairement à se laver les mains. Et puis, on va préparer la nourriture de l'autre qui a, de quelqu'un plus âgé. Et c'est comme ça, en fait, que ça se transmet. Donc, les enfants, en termes de diarrhée, c'est plus facile, en fait, pour eux de transmettre la bactérie à d'autres individus du fait qu'on s'occupe de plus souvent que d'autres personnes. Mais la sévérité de la maladie est égale, quel que soit l'âge de la personne.
Docteur Christelle Hill-Boudot de l'Université américaine du Missouri. Des scientifiques kényans et néerlandais ont conçu un piège à moustiques qui utilise l'odeur corporelle humaine pour attirer les insectes porteurs de la malaria. D'après une étude publiée dans la revue médicale britannique The Lancet, cette nouvelle technique a fait diminuer le nombre de personnes atteintes par la maladie. Michel Joseph.
Ces appâts particuliers à l'odeur synthétique ont permis d'attraper 70% de la population locale de moustiques porteurs de malaria et faire ainsi chuter les cas de maladie de 30% dans les ménages qui les emploient, d'après les résultats de cette étude de 3 ans menée au Kenya. Ces recherches ont précisément été menées sur l'île kényane de Rusinga, sur le lac Victoria, avec la participation de l'ensemble de ses 25 000 habitants, fonctionnant à l'électricité grâce à des panneaux solaires installés pour l'étude, les appâts ont ainsi été fixés dehors ou dans les foyers, en plus des moustiquaires et des médicaments anti-malaria. L'université de Wageningen, aux Pays-Bas, est à l'origine de la recherche. Et pour ces chercheurs, le piège odorant peut aussi offrir une solution pour les maladies comme la dengue ou le virus Zika. La dengue et le virus Zika sont causés par des parasites que transporte une espèce de moustique différente de celle porteuse de la malaria. Mais cette espèce est aussi attirée par les odeurs humaines. La maladie est transmise à l'homme par les piqûres des femelles infectées. L'invention des chercheurs réduit également le besoin de recourir à des pesticides pour contrôler la population de moustiques, qui sont de plus en plus résistants. Willem Takken, de cette université néerlandaise, a mené l'étude en collaboration avec des chercheurs du Centre kényan international de physiologie et d'écologie des insectes et l'Institut tropical et de santé publique suisse. Le rêve suprême de M. Takken est de réussir à lutter contre la malaria sans insecticide. L'université précise que chaque minute, un enfant décède de la malaria. Une maladie qui coûte 12 milliards de dollars chaque année à l'Afrique en termes de coûts de santé et de pertes de production. Il n'existe actuellement aucun vaccin contre la malaria qui a causé la mort de 438 000 personnes en 2015, d'après l'Organisation mondiale de la santé. La plupart des victimes de cette maladie sont des enfants âgés de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne. L'objectif de l'OMS est de réduire les décès en lien avec la malaria de 90% d'ici 2030.
Des chercheurs ont découvert des indications pouvant mener à une nouvelle façon de lutter contre l'infection aux ascaris, des parasites qui infectent plus de 800 millions de personnes dans le monde. Le point avec Lionel Gaïma.
L'ascaris est l'une de nombreuses maladies tropicales négligées identifiées par l'Organisation mondiale de la santé. Et il est le plus commun de trois, transmis à partir du sol. La plupart des humains infectés ne présentent pas de symptômes. Les gens découvrent qu'ils sont infectés après le passage du parasite dans les selles ou les vomissures. Les œufs d'ascaris fécondés sont déposés dans le sol à partir des excréments humains. Si quelqu'un ingère ces œufs, ils éclosent dans l'intestin. Les larves se déplacent ensuite dans le foie, où ils mûrissent plus loin et sont transportés à travers la circulation sanguine dans les poumons. Après quelques jours, les vers devenus matures se tortillent hors de poumons, dans la gorge, où ils sont avalés, soit évacués. Le taux d'infection le plus élevé se produit dans certaines régions d'Afrique subsaharienne, en Asie et dans le centre-sud de l'Amérique latine. Des chercheurs en Irlande et en Angleterre ont remarqué que certaines personnes sont plus sensibles aux ascaris que d'autres. Mais les études humaines sont chères. Ainsi, les chercheurs utilisent des souris. Lorsqu'elles sont infectées, les souris sensibles développent un plus grand nombre de parasites dans leurs poumons que ceux qui sont résistants. Cela a conduit les chercheurs précédents à conclure que les environnements du foie dans les deux types de souris génétiquement différentes devraient également être différents. Jim Carolan, professeur de biologie à l'université de Maynooth en Irlande, a examiné les protéines du foie dans ces deux types de souris. Dans les cellules de foie de souris résistantes, Carolan et ses collègues ont découvert des centaines de protéines différentes qui sont associées à la production de l'énergie. Un des sous-produits des procédés mitochondriaux les plus élevés qui produisent de l'énergie est un des produits chimiques contenant de l'oxygène connu sous le nom d'espèce réactive de l'oxygène, ROS. Les chercheurs suggèrent que si les souris résistantes ont plus de mitochondries, ils vont conduire plus de ces ROS qui pourraient s'avérer toxiques pour les cellules parasitaires. Ce travail est seulement préliminaire et Carolan souligne que plus de tests et de recherches sont nécessaires avant que les thérapies humaines ne soient développées.
Une enquête au Cameroun a révélé que près de 70% des bébés ne sont pas allaités exclusivement au sein pendant les 6 premiers mois de la vie. Les agents de santé tentent ainsi de faire passer le message. Nathalie Barge.
Liliane, jeune maman de 19 ans, prépare une bouillie de maïs appelée localement pape pour son bébé de 2 mois. Elle dit qu'elle a allaité son enfant pendant 1 mois et demi seulement.
Moi, j'aime quand mon corps est encore en forme là. Je trouve que je suis encore très jeune, donc je ne peux pas risquer de perdre la forme là maintenant. Je ne veux pas, mais si un temps, on pouvait souvent voir des mamans qui ont des seins un peu plates. Je ne veux pas voir ça maintenant, puisque c'est encore mon premier enfant.
Henrietta, âgée de 3 mois, pleure à l'hôpital de Messassi, à Yaoundé. Sa mère de 26 ans tente de la réconforter en disant qu'elle a commencé à perdre du poids quand elle a arrêté son allaitement il y a une semaine. Je préfère le lait artificiel. Il fait gagner du temps. Il y a de très bons laits sur le marché que vous pouvez avoir pour votre enfant. C'est juste une question de qualité. Le docteur Evelyne Ma, à l'hôpital pédiatrique de Yaoundé, travaille à démystifier ces idées reçues.
Breast milk contains all what the baby needs.
Le lait maternel contient tout ce dont le bébé a besoin. Quand elles allaitent leur bébé exclusivement, tout ce que les mamans ont à faire est de manger des repas équilibrés et boire beaucoup d'eau. La pédiatre Doriane Mvogo du département de la protection de la famille au ministère de la Santé affirme qu'un quart des nourrissons qui meurent au Cameroun se sont vus refuser le lait maternel exclusif pendant les 6 premiers mois de leur vie. Selon l'OMS, plus de 800 000 vies seraient sauvées par an dans le monde si tous les bébés ne prenaient rien d'autre que le lait maternel jusqu'à l'âge de 6 mois.
Jusqu'à présent, il n'y a aucun lait qui atteint le lait maternel à la cheville. Parce que quand on regarde la composition du lait maternel et la composition de ces laits artificiels, c'est vraiment deux mondes différents. Pourquoi ? Parce que dans le lait maternel, nous avons beaucoup les anticorps. Donc ces anticorps-là, qui sont dans le lait maternel, protègent le bébé contre les infections. Et les laits artificiels, aucun lait artificiel ne possède les anticorps.
Le congé maternité au Cameroun est de 2 mois. Pour que les mères qui travaillent puissent rester à la maison afin d'allaiter leur nouveau-né. Après cette période, la loi exige qu'il soit donné 2 heures chaque jour ouvrable pendant 4 mois aux mamans pour leur permettre de continuer à allaiter leur bébé tout en travaillant. Certains défenseurs du bien-être de la famille demandent que le congé de maternité soit étendu à 6 mois, tandis que d'autres craignent que cela ne soit profitable qu'aux mères qui occupent des emplois à revenus élevés.
Vous êtes toujours branché sur VOA Afrique à l'écoute de Carrefour. Jacques Aristide vous accompagne. Les récifs coralliens des Maldives ont massivement blanchi en raison des changements climatiques, dû notamment au phénomène El Niño. Il s'agit de l'une des premières conclusions d'une étude scientifique menée à l'initiative de l'UICN, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Morgane Guerriec nous en dit davantage.
Environ 60% des coraux recensés ont blanchi. Un pourcentage qui grimpe à 90% sur certains sites selon l'UICN. L'augmentation des températures sur la surface de l'eau liée au phénomène climatique El Niño est à l'origine de ce phénomène constaté en 2016. El Niño, qui a provoqué inondations et sécheresses dans le monde depuis 2015, a pris fin en mai. Et ce phénomène météorologique se produit tous les 4 ou 5 ans avec une intensité variable et se traduit par une hausse de la température de l'océan Pacifique. L'étude sur les coraux a été conduite par le Centre de recherche marin des Maldives, ou MRC, et l'Agence américaine de protection de l'environnement, EPA, en coopération avec l'UICN. Une dizaine d'experts ont évalué l'impact des dégâts. Pour le chef d'équipe, les résultats préliminaires de l'ampleur du blanchiment sont alarmants et montrent que la mortalité des coraux a déjà été observée. Le docteur Amir Abdullah a mis en garde contre une augmentation de cette mortalité si les coraux blanchis ne parviennent pas à récupérer. Les Maldives abritent environ 3% des récifs coralliens dans le monde. C'est un des pays les plus vulnérables au changement climatique en raison de l'altitude moyenne de 1,5 m, d'après l'UICN. Les coraux blanchissent lorsque leur environnement change de manière brutale. Ils se retrouvent en situation de stress et expulsent les algues symbiotiques vivant dans leurs tissus, ce qui leur fait perdre leur couleur. Et les coraux blanchis risquent de mourir si leur environnement ne revient pas à la normale. En réaction à ce phénomène, le gouvernement des Maldives a créé un groupe de travail en collaboration avec l'EPA et l'UICN qui collecte notamment les données. Pour le directeur général de l'EPA, Naïm Ibrahim, il faut insister sur l'importance de réduire les facteurs de stress locaux tels que la sédimentation, la pollution et la surpêche des herbivores. La conservation des récifs coralliens est inscrite à l'ordre du jour du prochain congrès mondial de l'UICN qui aura lieu en septembre à Hawaï.
De la cosmétique à la cuisine, le beurre de karité est populaire dans le monde entier. Il est fabriqué à partir de la noix de l'arbre de karité, connue comme l'or des femmes en Afrique. Elle fournit des revenus à des millions de femmes à travers le Sahel. Émilie Yob s'est rendue dans le nord de la Côte d'Ivoire, où les femmes cherchent à transformer l'industrie artisanale du beurre de karité en grande entreprise. Son reportage est relaté par Anne Albertson.
Dans ce marché, à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, les vendeurs de beurre de karité ont leur coin à eux. Sur leurs étals sont rangés des tas de beurre jaunâtre, un produit populaire localement. Awa Ouattara est cliente.
Moi, je l'utilise comme pommade. Ça entretient ma peau, ça embellit, ça raffermit ma peau.
À 50 km du marché, Alice Kone et Marie Diouma balaient l'herbe à ses pieds pour ramasser les noix de karité tombées dans l'une des nombreuses plantations de la région. La récolte est en cours et comme chaque année, Madame Kone traitera le karité de la manière traditionnelle que lui a apprise sa grand-mère. Chauffage, séchage, broyage, il faudra des heures de travail pour fabriquer le beurre de karité qui sera vendu au marché.
Bon, dans le karité, cette année-là, ils ont bien payé. Donc ce qui fait que ça nous a arrangé. On n'avait même plus besoin d'autres choses. Les années que le karité ne donne pas bien, on se débrouille avec les autres cultures.
Comme Alice Kone et Marie Diouma, la plupart des femmes dans l'industrie du karité en Côte d'Ivoire ont leur propre fabrique et vendent leurs produits sur place. Mais le beurre de karité est très en demande dans le monde pour utilisation dans les cosmétiques ou en tant que substitut du beurre de cacao dans le chocolat. Les pays voisins, comme le Burkina Faso et le Ghana, sont parmi les principaux exportateurs mondiaux. L'exportation de karité rapporte environ 33 millions de dollars par année au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire tente de rattraper son retard dans ce domaine. Dans le village de Natio-Kobadara, la transformation du karité est une activité traditionnelle, transmise dans presque toutes les familles depuis des décennies. Mais il y a quelques années, les femmes ont décidé de travailler ensemble dans une coopérative. Dans un espace en plein air, elles mettent les amandes de karité à sécher au soleil. Tout près de là, des dizaines de femmes sont en train de tourner les manivelles des fours cylindriques utilisés pour chauffer les noix de karité. Le karité est ensuite moulu. La présidente de la coopérative, Aoua Koulibaly, souligne l'importance des efforts collectifs.
Parce que nous travaillons ensemble. Si vous travaillez individuellement, on ne peut pas vous aider. On ne peut pas construire un magasin à chaque femme.
Et Mme Koulibaly d'ajouter qu'elles ont encore besoin de plusieurs machines et d'une clôture pour sécuriser la zone. Dans certains champs, un nouveau type d'arbre de karité a été planté. Il est plus productif que l'espèce sauvage. Le pays dispose désormais de 2 unités de traitement mécanique. Il y a 2 ans, le gouvernement a commencé à structurer le secteur du karité. Un effort dirigé par Ali Keita.
Dès l'instant que la société coopérative elle est forte, elle a des clients en Chine, elle a des clients en Europe, elle a des clients aux États-Unis. Si l'interprofession se met en place, c'est l'ensemble maintenant qui va être un pays fournisseur de karité à l'extérieur.
Monsieur Keita s'efforce en outre de développer une plus grande coopération régionale entre les pays producteurs de beurre de karité.
L'Américain moyen consomme beaucoup de viande, surtout rouge. La viande contient beaucoup de protéines, mais une étude montre que pour vivre longtemps et en bonne santé, ce sont les protéines végétales qui sont recommandées. Récit Anastasie Tudiech.
Les docteurs Ming-Yong Sung et Andrew Chan de l'hôpital général du Massachusetts et de l'université Harvard était de l'équipe médicale qui a observé comment un régime alimentaire, selon qu'il est à base de protéines animales ou végétales, peut impacter les individus. Ils ont analysé les données de 2 études majeures impliquant plus de 130 000 participants. Les chercheurs ont rassemblé des informations sur le régime alimentaire des participants, leur mode de vie, leur santé, et après études minutieuses, voici leurs conclusions.
Les individus qui ont consommé la plus grosse quantité de protéines animales présentent un risque plus grand de mortalité, cardiovasculaire en particulier.
Et le risque est accru chez les gens qui ont une mauvaise hygiène de vie.
Les protéines sont essentielles à la fabrication et à la protection des muscles et des os. Mais la viande rouge est particulièrement riche en cholestérol, vecteur de maladies du cœur. Les chercheurs ont découvert que le taux d'affection cardiovasculaire était plus élevé chez ceux qui consomment de la viande. Mais les fumeurs, les personnes obèses, les sédentaires ainsi que les grands consommateurs d'alcool sont également exposés. Ils ont aussi découvert que ceux qui ont remplacé les protéines animales par des végétales réduisaient le risque de mort prématurée.
Il est évident qu'à long terme, un régime alimentaire composé de plantes est plus de nature à prolonger la vie qu'un régime basé sur la consommation de protéines animales.
L'étude a été publiée dans le journal de l'Association médicale américaine.
Espoir pour les personnes paraplégiques dans le monde, une nouvelle étude américaine a permis à des patients de retrouver sensation et un contrôle partiel de leurs jambes. Tout ça a été rendu possible par une rééducation cérébrale et physique inédite. Les explications de Nicolas Pinou.
Eh bien, les 8 patients de cette étude, tous paralysés des deux jambes à la suite d'un accident, ont entraîné leur cerveau à l'aide d'un ordinateur, leur corps maintenu physiquement par un robot mais sans électrode ou puce reliée au cerveau. Ils ont dû s'imaginer en train de marcher. Et là, les scientifiques ont vu des résultats extraordinaires au bout d'un an. Cette rééducation virtuelle a en effet permis de recréer dans le cerveau la représentation des membres inférieurs et donc de stimuler des nerfs de la moelle épinière qui avaient survécu à l'accident à l'origine de la paraplégie. Le docteur Miguel Nicolelis de l'université de Duke coordonne cette étude.
Cliniquement, ces patients diagnostiqués depuis 10 ans comme paraplégiques, grâce à l'entraînement qu'on a créé, il se peut qu'on ait provoqué une réorganisation du cerveau. C'est comme si on avait rallumé des patients.
Si les patients ont pu à nouveau sentir leurs jambes, voire effectuer quelques mouvements, leur qualité de vie s'est aussi beaucoup améliorée, avec un meilleur contrôle de leur vessie, par exemple, ou la possibilité d'avoir des relations sexuelles. Une de ces patientes peut même conduire et s'asseoir. Une autre a pu sentir son bébé et les contractions lors de son accouchement.
Le vol MH370 de Malaysia Airlines demeure l'un des plus grands mystères de l'aviation civile. Volatilisé dans l'océan Indien le 8 mars 2014 avec 239 personnes à bord, l'avion reste introuvable. Et le monde a été stupéfait d'apprendre qu'en dépit de toute la technologie moderne disponible, certains avions ne sont toujours pas surveillés en temps réel et leur localisation est parfois une simple supposition. Une entreprise canadienne affirme avoir mis au point un système permettant de suivre les avions avec une extrême précision. On fait le point avec Georges Putic dans son reportage lu par Bagassikoura.
Le contact avec le vol MH370 a été perdu moins d'une heure après qu'il a quitté l'aéroport de Kuala Lumpur à destination de Pékin. Pendant un certain temps, il a été suivi par un radar militaire de la Malaisie et par un système de satellite Inmarsat qui vérifie périodiquement l'état des moteurs d'aéronef. Puis l'avion a changé de cap, a survolé l'océan Indien et a disparu. Les enregistreurs de vol, les fameuses boîtes noires, n'ont jamais été retrouvés. Le résultat aurait été différent si l'avion avait été équipé d'un système de localisation tel que celui fabriqué par la société canadienne Flight. Thomas Smuts en est le PDG.
Ce qui aurait été idéal, c'est si l'on avait à bord un système qui pourrait ne pas avoir été mis hors tension, qui aurait pu fournir des informations sur le parcours de l'avion et la situation à bord de l'avion.
Le système automatisé d'information en vol de Flight, dénommé AFIRS, travaille avec le réseau de satellites de communication Iridium qui couvre toute la planète. L'unité installée à bord de l'aéronef recueille des données provenant des capteurs embarqués et d'autres systèmes d'information. Thomas Smuts.
Si quelque chose tourne mal pendant le fonctionnement de l'avion, nous pouvons prendre les mêmes données qui sont fournies à la boîte noire et les diffuser sur des constellations de satellites basse orbite.
La surveillance de tous les systèmes de l'avion a aussi d'autres avantages. Thomas Smuts est le PDG de Flight.
Par exemple, notre
programme de carburant en cours de vol suivra 8 paramètres différents à bord de l'aéronef et fournira un feedback aux opérateurs de l'aéronef sur comment ils devraient agir pour réduire leur consommation de carburant.
Les compagnies aériennes peuvent recevoir des journaux de bord, l'état de moteur et même la condition du corps et des ailes de l'avion. Connaître à l'avance de quel type de réparation ces systèmes auront besoin peut permettre aux compagnies aériennes d'économiser beaucoup d'argent. Les boîtes noires sont toujours obligatoires, mais le système AFIRS est de plus en plus présent dans les nouveaux avions, dont les Airbus A320 et A330, ainsi que des avions de ligne fabriqués par la société canadienne Bombardier.
Et voilà, point final à ce numéro de Carrefour. Un grand merci aux collègues qui nous ont aidés à le produire. Michel Joseph était à la réalisation, Jacques Aristide au micro. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Très bonne suite de programme sur VOA Afrique. À très bientôt. Take care.